Irving Brown fait partie de ces Américains arrivés en Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans les bagages du débarquement et du plan Marshall qui tomberont amoureux de la France au point de ne plus jamais la quitter. Un peu comme Jerry Mulligan, le héros d'un Américain à Paris.
This is Paris.
Voici Paris.
And I'm an American.
Et je suis un Américain qui vit à Paris.
I'm a painter.
Je suis peintre.
All my life,
je n'ai jamais rien eu envie d'autre dans ma vie.
Mais Irving Brown, lui, n'est pas un peintre. C'est un agent secret américain, un porteur de valises de la CIA, opérant sous divers pseudonymes et sous couverture, celle du syndicalisme. Quand dans les années 80, on interrogera le syndicaliste sur ses liens avec la CIA, il répondra en souriant.
Si je vous disais, j'en ai bien fait partie, ce ne serait pas exact. Mais si je vous disais, je n'ai aucune relation avec elle, vous éclateriez de rire.
Jovial et bon vivant, amateur de vin fin et de cuisine française, Irving Brown excelle dans l'art de lier des amitiés et de remplir son carnet d'adresses. Il faut dire qu'au restaurant, c'est souvent lui qui paye. Ami déclaré de la France, il jouera dans l'histoire de notre pays jusqu'à sa mort en 1989 un rôle clé, mais souvent trouble et toujours controversé. Prêt à tout, même à s'associer à la pègre s'il le faut, ce Cold Warrior, c'est ainsi qu'on appelle les combattants de la guerre froide, s'est battu jusqu'à sa mort en 1989 pour un objectif, empêcher la victoire du communisme. Notamment lorsqu'en 1944, l'Europe, dévastée par la guerre, menace de tomber sous l'emprise de Staline. L'un des plus hauts faits d'armes d'Irving Brown, une de ses plus grandes fiertés, c'est en décembre 1947, alors que la France est paralysée par la crise économique et les grèves, c'est lui, Irving Brown, qui poussera la CGT, majoritairement communiste, à la scission. Et à grand renfort de billets verts, à la création de Force Ouvrière, un syndicat réformiste. Plus tard, la question d'un éventuel financement par la CIA reviendra souvent dans les interviews d'André Bergeron, le secrétaire général de FO de 1963 à 1989, et cela aura l'art visiblement de l'énerver.
André Bergeron a souvent dit et répété que FO touchait l'argent de la CIA.
Vous savez, tout ça relève de la calomnie ou du roman policier, comme vous voudrez.
Dans ce cas, est-ce que les syndicats américains ne vous apportent pas une aide financière ?
Je vous donne l'assurance, à l'heure actuelle, nous ne percevons plus un centime de l'extérieur. Et cela depuis de nombreuses années. Ce qui est vrai, c'est que lors de la scission syndicale de 1947, nous avons été aidés par l'ensemble du mouvement syndical libre international. Les deux confédérations syndicales américaines de l'époque, les syndicats britanniques, les syndicats scandinaves, et je me rappelle, lorsque j'étais à Belfort, les camarades de l'Union syndicale suisse m'avaient fait cadeau d'une machine à écrire. C'est une anecdote qui mérite d'être rappelée.
Et sans état d'âme, c'est encore l'agent Brown, avec l'appui des gros bras de la mafia corse, qui mettra fin à la grève des dockers à Marseille, menée par la CGT. À ses yeux, la classe ouvrière, en France ou ailleurs dans le monde, n'a rien à attendre du communisme. Dans une interview qu'il donnera en 1965 à la télévision française, Brown donne l'exemple des syndicalistes américains.
Ils sont contre le communisme, parce qu'ils voient le communisme comme un système de dictature. D'abord, c'est un système où il n'y avait pas de syndicats libres, où il n'y avait pas même un haut standard de vie, où il n'y a pas de possibilité pour les ouvriers de lutter pour eux-mêmes, parce que la classe ouvrière ne cherche pas seulement au salaire, ils cherchent aussi la liberté d'association, ça veut dire le syndicalisme libre. Même, je crois, il y a une crise économique en Russie aujourd'hui, parce qu'au fond, il n'y a pas une classe ouvrière libre, même relativement libre.
Le paradoxe de cet agent de la CIA, c'est qu'il est un ambassadeur officieux des États-Unis et en même temps un authentique syndicaliste et défenseur de la classe ouvrière, mais à l'américaine. Irving Brown est né en 1911 à New York, dans le quartier populaire du Bronx. De son père, chauffeur-livreur de lait, il hérite le goût du combat syndical. Mais sa première passion à lui, c'est le baseball. Il rêve de devenir joueur professionnel, comme son héros Lou Gehrig, la star des Yankees, l'équipe du Bronx, qui sera immortalisée au cinéma par Gary Cooper. Chance, suite à une blessure, Irving Brown doit renoncer au baseball. Après des études d'économie, au début des années 30, il devient camionneur, comme papa, et entre au syndicat du transport routier. L'Amérique sort à peine de la crise de 1929, et sur le terrain, le combat est rude. Parfois au corps à corps, quand Brown veut convaincre les camionneurs ou les ouvriers de chez Ford d'adhérer au syndicat ou de débrayer.
C'est ça, c'est bravo.
En mai 1937, à Détroit, Irving Brown, il a 26 ans, échappe de peu à la mort dans une méchante bagarre avec le service d'ordre de Ford. Au syndicat, ce jeune homme, pas très grand mais malin et énergique, se fait remarquer et commence à grimper les échelons de la puissante Fédération américaine du travail, l'AFL, où il devient le protégé des dirigeants Joe Kennan et George Meany. C'est à l'AFL aussi que Brown se lie d'amitié avec un personnage fascinant, Jay Lovestone. Né en Ukraine, cet ancien dirigeant du Parti communiste américain, proche dans les années 20 des bolcheviks, s'est métamorphosé dans les années 30 en opposant farouche de Staline et du communisme tout court. Une conviction que Brown partagera jusqu'à la mort. Mais pour l'heure, les ennemis sont le Japon et l'Allemagne nazie.
Quand Washington, en se remettant de la catastrophe de Pearl Harbor, a pris conscience de l'efficacité depuis longtemps de l'espionnage allemand et japonais, l'ordre est venu de la Maison-Blanche que les États-Unis aussi devaient avoir des yeux et des oreilles dans les pays ennemis. Immédiatement, la nation, pour la première fois de son histoire, exige la création d'un service de renseignement.
En décembre 1941, l'attaque sur Pearl Harbor a fait entrer les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Irving Brown est réformé. Mais tout en poursuivant son activité syndicale, il est discrètement recruté en 1943 par l'OSS, Office of Strategic Services, le tout nouveau service de renseignement américain, l'ancêtre de la CIA, où il apprend le métier d'espion. La mission de l'agent Brown est de convaincre les travailleurs américains de mettre en veilleuse leurs revendications et de s'unir pour l'effort de guerre. Par ailleurs, il se rend régulièrement en Europe occupée pour prendre contact avec des syndicalistes résistants, sans lesquels, il le sait, la victoire du débarquement qui se prépare sera impossible.
Aujourd'hui, les armées alliées ont opéré leur premier débarquement sur le sol de l'Europe. Une nouvelle bataille décisive de l'histoire du monde a démarré. Voici le jour que les peuples libres ont longtemps attendu. C'est le jour J.
Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. Le lendemain, au milieu de la tourmente, c'est au tour d'Irving Brown d'être parachuté en France. Très vite, le syndicaliste espion sillonne le pays et découvre une réalité qui l'inquiète. Une partie des syndicats français pendant l'occupation a fait le choix du régime de Vichy. L'autre, la résistante, celle du communisme en majorité. Une réalité d'autant plus préoccupante pour les Américains que le parti de Maurice Thorez devient en 1945 le premier parti de France. La guerre, en effet, est à peine finie avec Hitler qu'une autre menace avec l'allié d'hier, l'Union soviétique. En 1946, la pression ne fait que monter entre l'Est et l'Ouest. À Moscou, Staline affirme que face à la montée du capitalisme, une deuxième guerre est inévitable. Tandis que le premier ministre britannique, Winston Churchill, ne peut que déplorer la division de l'Europe.
De Stettin, sur la Baltique, à Trieste, sur l'Adriatique, un rideau de fer est tombé sur le continent. Derrière cette ligne se trouvent toutes les capitales des anciens États d'Europe centrale et orientale. Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest et Sofia. Toutes ces villes célèbres et les populations qui les entourent se trouvent désormais dans ce que je dois appeler la sphère soviétique.
Mais l'Ouest de l'Europe, et singulièrement la France, ne risque-t-il pas à leur tour de tomber sous l'emprise soviétique ?
Ce deuil infini des villages désormais sans nom, des pierres désormais inhumaines, des terres désormais interdites. Il évoquait cette misère infinie d'un pays où la justice et la piété ne vivaient plus que dans les ruines, et où la pluie seule troublait encore le silence des usines mortes. Et derrière ces images déchirantes, il y avait des réalités menaçantes et qui hypothéquaient l'avenir.
En 1947 encore, la France peine à se remettre de la guerre. Les tickets de rationnement n'ont pas disparu, on manque de pain, de charbon, les prix grimpent et la colère gronde. Les mineurs, qui ont accepté d'augmenter les cadences pour fournir le pays en charbon, ne voient pas venir la récompense de leurs efforts. Pour les États-Unis, il est urgent d'intervenir en Europe. Le 5 juin 1947, à l'université de Harvard, George Marshall, le secrétaire d'État américain, appelle à la mise en œuvre d'un vaste plan d'aide économique. Le fameux plan Marshall, qui jusqu'en 1951 permettra à l'économie européenne de relever la tête.
Le plan Marshall n'est plus aujourd'hui un projet, c'est maintenant une réalité. À Washington, le président Truman a signé la loi votée par le Congrès et qui assure aux nations participantes d'Europe quelques 6 milliards de dollars, soit 1800 milliards de francs. Grâce à cette aide, dont l'idée fut lancée voici 10 mois, l'Europe compte se redresser définitivement.
Mais, coup de théâtre, l'Union soviétique dénonce l'ingérence américaine du plan Marshall et appelle les partis communistes à la confrontation. En Tchécoslovaquie, par exemple, le gouvernement démocratiquement élu, qui a accepté l'octroi d'une aide américaine, se voit soudain opposer le veto de Staline, dont l'armée rouge occupe le pays. Une situation de crise qui aboutira à la prise du pouvoir par les communistes, ce qu'on appelle le coup de Prague, qui stupéfie le monde. En France aussi, c'est l'escalade. Le 27 novembre 1947, à l'appel de la CGT, 2 millions de travailleurs sont en grève. Le pays est paralysé. Émeutes, sabotages, grèves insurrectionnelles, répression policière et intervention de l'armée. La France est au bord de la guerre civile.
Climat de trouble, c'est l'atmosphère de cette semaine. Dans les mines du Nord, où l'effervescence continue, les compagnies de sécurité ont dû intervenir pour libérer les puits des piquets laissés par les grévistes pour empêcher tout travail. Le sabotage, sous toutes ses formes, a pris sa place dans l'agitation. Près d'Arras, l'express postal Paris-Tourcoing a déraillé par suite de l'action de criminels anonymes qui avaient déboulonné les rails sur 25 mètres. 24 morts, une quarantaine de blessés. Tel est le bilan de cet attentat abominable que toutes les consciences françaises se doivent de flétrir. Cependant, précaution contre des mouvements possibles, des forces de police étaient établies un jour autour du Palais Bourbon, où l'Assemblée continuait la discussion des pouvoirs demandés par le gouvernement. C'est dans cette atmosphère que M. Maurice Thorez, leader du Parti communiste revenu de Moscou, allait à Hénin-Liétard fêter la Sainte-Barbe au milieu de ses compagnons d'autrefois. Et plusieurs milliers de personnes écoutaient l'ex-vice-président du Conseil faire l'apologie de la grève.
Alertée par la CIA, la nouvelle agence de renseignement créée en septembre 1947, il ne fait aucun doute à Washington que le parti de Maurice Thorez fomente un coup d'État. La CIA est alors chargée, en marge du plan Marshall, de lancer des covert operations, des opérations clandestines qui visent à mettre en place de futurs réseaux de résistance dans le cas où les communistes viendraient à prendre le pouvoir et à soutenir des partis politiques, des associations, des syndicats réformistes. Et c'est là qu'Irving Brown va intervenir. Depuis novembre 1945, le représentant de l'AFL en Europe vit à Paris, à l'hôtel Baltimore, près des Champs-Élysées. Mais ce n'est qu'un point de chute. Il a des bureaux à Rome, Berlin, Copenhague, Athènes. Sans cesse en mouvement, cet homme pressé qui ne dort que 4 heures par nuit sillonne le continent dans tous les sens pour rencontrer les syndicats. Son but en France est on ne peut plus clair.
Je veux créer des syndicats non communistes et affaiblir la CGT.
Et Irving Brown prend son bâton de pèlerin. Un article du Time Magazine raconte que le syndicaliste s'est rendu en 1946 dans la ville minière de Lens et a rencontré 6 mineurs dans un vieux bistrot de la rue du Cantin. Leur chef, Henri Mailly, qui n'est autre que l'arrière-grand-père du futur secrétaire général de FO, Jean-Claude Mailly, est alors un patriarche à la barbe blanche. Celui qui est descendu dans la mine à 14 ans, qui a vécu la grande grève de Courrières en 1906, est surnommé le Jaurès des mineurs. Au café, il arbore fièrement sur sa tête un béret troué. Troué, dit-il, par une balle tirée par un communiste. Le vieux mineur socialiste explique à Brown « Les communistes ont tout, même notre vieux bâtiment syndical, mais nous voulons nous battre ». L'aide apportée par Brown leur permettra d'acheter un nouveau bâtiment et une presse à imprimer et de payer un salaire.
Ils avaient besoin de quelques francs, mais plus que tout, ils avaient besoin de sentir qu'ils n'étaient pas seuls.
Avec quelques francs encore, Irving Brown réussit en décembre 1947 son plus gros coup. Alors que les grèves de la CGT communiste paralysent la France, il intrigue et finit par convaincre les minoritaires de la CGT de faire scission. Après des débats houleux, les réformistes Léon Jouhaud et Robert Bottereau, qui jusqu'au bout ont espéré pouvoir maintenir l'Union, dénoncent, je cite, « les manœuvres téléguidées de Moscou » et acceptent de créer un nouveau syndicat appelé CGT-FO, Force ouvrière.
À Paris, au fond d'une cour de la rue Mademoiselle, dans un logis de fortune, vient de s'installer la CGT Force ouvrière autour de M. Léon Jouhaud et des 4 secrétaires confédéraux qui l'ont suivi. M. Bouzanquet, au cours de la première réunion, a insisté sur leur volonté de retrouver la force du syndicalisme d'autrefois. Indépendance à l'égard de tous les partis politiques.
George Meany, le patron de l'AFL, l'ami d'Irving Brown, s'en félicite devant une assemblée du Pen Club à Washington.
Je suis fier de vous dire que c'est avec l'argent des ouvriers de Détroit et d'ailleurs qu'il nous a été possible d'opérer la scission très importante pour nous de la CGT en créant le syndicat Ami FO.
Quelques années plus tard, George Meany est interviewé à la télévision américaine.
It's time for the Longines Chronoscope, a television journal of the important issues of the hour, brought to you every Monday, Wednesday and Friday.
Une émission politique financée curieusement par une marque de montres.
Monsieur Meany, pouvez-vous nous dire ce qui vous intéresse aujourd'hui en Europe ?
Eh bien, la Fédération américaine du travail s'intéresse aux travailleurs de l'Europe de l'Ouest. Nous avons eu des représentants en Europe pendant des années. Nous avons un représentant en Autriche, en Allemagne, nous en avons un, Mr. Brown.
Est-ce que là-bas, vous combattez le communisme ?
Oui, c'est pour cela que nous sommes là-bas. Nous sommes là pour combattre le communisme. La théorie est simple. Si nous arrivons à empêcher le communisme de prendre le contrôle des syndicats en Europe, de la majorité des travailleurs d'Europe, alors nous pouvons empêcher l'Europe de devenir communiste. Un très bon exemple est la Tchécoslovaquie. Les communistes n'avaient pas plus de 28% des députés, mais quand en 7 jours, ils ont réussi à contrôler ce mouvement, ils ont pu prendre le contrôle du pays.
Officiellement, c'est le grand syndicat américain, l'AFL, qui seul finance Force ouvrière en France. Mais c'est un secret de polichinelle que derrière l'AFL, les services secrets américains ont vite pris le relais, jusqu'à ce que le scandale éclate en 1967. Aux États-Unis, dans une tribune du Saturday Evening Post, Thomas Braden, un ancien officier de l'agence, révèle et justifie plusieurs coups tordus qu'il a opérés quand il était en service. Aux pires heures, dit-il, de la guerre froide. Il révèle, entre autres, qu'il versait régulièrement des fonds à un certain Norris Grumbo, un nom de code derrière lequel, vous l'avez compris, se cache Irving Brown. Des fonds pour financer les syndicats en Europe, mais aussi, précise Braden, d'autres actions plus illégales et plus musclées aussi. En novembre 1947, à Marseille, où le Parti communiste est très puissant, une grève des dockers menée par la CGT paralyse le port et empêche le déchargement des navires du plan Marshall. Irving Brown s'associe à un ancien résistant socialiste, Pierre Ferry Pisani, et décide, comme au niveau national, de financer la création d'un syndicat FO des dockers. Mais alors que le climat d'émeute ne s'apaise pas, que les CRS peinent à rétablir l'ordre, Brown n'hésite pas à payer des gros bras pour casser la grève.
Après les journées d'émeute qui l'illustrèrent tragiquement, Marseille avait retrouvé le calme, calme de paralytique. Sur le port, gardé militairement, les dockers restaient absents. Pour sauver les denrées périssables, la troupe devait prendre leur place. Des navires étaient déroutés et le plus grand port de France, avec ses 100 000 grévistes, n'offrait plus que l'image d'un désert où l'orage couve encore.
L'apaisement est en effet de courte durée. En 1950, les dockers CGT se remettront en grève pour protester contre l'expédition de matériel militaire en Indochine. Là encore, Irving Brown, sans état d'âme, fera appel à ses amis Antoine et Mémé Guérini, les parrains de la mafia marseillaise qu'il paiera grassement avec les fonds de la CIA. On parle $1 million. Les affrontements, très durs, feront un mort du côté des grévistes. Cette victoire se payera cher à Marseille, où la pègre régnera pendant plus de 20 ans en totale impunité. Pour le plus grand plaisir de Brown, qui pendant des années profitera des restaurants et des boîtes de nuit des Guérini sur le Vieux-Port. Et à l'occasion, leur rendra quelques menus services. France 3, le 1er mars 1982, au lendemain de la mort de Mémé Guérini.
Il s'appelait Barthélémy, on l'appelait Mémé. Il fit parler de lui peu après les années 30, lorsque venu de son village corse en compagnie de ses 5 frères, il décide de s'attaquer aux maîtres du milieu de l'époque, Carbone et Spirito. La guerre venue, alors que ces derniers choisissent la collaboration, le clan Guérini choisit la résistance. Pour les uns, ce sera la défaite et l'exil, pour les autres, ce sera la victoire, et surtout, le début d'une irrésistible ascension. Seuls dans la place, ils deviennent les grands caïds de Marseille. Prostitution, jeux, contrebande de cigarettes passent entièrement sous leur contrôle. Ce règne durera une vingtaine d'années jusqu'à ce jour de juin 1967 où son frère Antoine, chef incontesté du clan, est abattu de 13 balles de mitraillette au volant de sa voiture. Mémé sera arrêté le 4 août et le 15 janvier 70, il est condamné par les assises de la Seine à 20 ans de réclusion criminelle et incarcéré à la prison de Fresnes.
On ne s'en étonne pas, dès 1947, Irving Brown est la bête noire des communistes. Benoît Frachon, le patron de la CGT, l'appelle Mr. Brown ou le corrupteur sans visa. Et on ne s'en étonne pas non plus, l'agent américain reçoit des menaces de mort. Par prudence, il quitte Paris pour Bruxelles. C'est là qu'un journaliste de Time Magazine vient interviewer notre syndicaliste en 1952. Brown habite à Bruxelles dans une maison à 100 dollars par mois, avec sa femme Lily, d'origine berlinoise, et leur fils de 9 ans. Brown passe au moins 14 heures par jour au téléphone. Il gagne 8 750 dollars par an seulement, et il n'a que deux secrétaires et une assistante. Bref, comprenez, Irving Brown est un homme non seulement engagé, mais désintéressé. Dans ces années de guerre froide, si la CIA cherche à casser l'influence communiste dans les partis et les syndicats, elle prend conscience que la bataille doit se mener aussi sur le terrain des idées et de l'art, où le marxisme a pris un ascendant certain. Irving Brown, chargé de créer un contre-feu, prend très à cœur ce combat, notamment quand il apprend en 1949 que le Parti communiste français organise en grande pompe le premier congrès mondial pour la paix, dont la colombe, dessinée par Picasso, deviendra le symbole.
Le 20 avril 1949, s'est ouvert à Paris le premier congrès mondial des partisans de la paix. Cette manifestation a groupé de nombreux délégués venus de tous les pays du monde pour prévenir et suspendre, si possible, la terrible menace qui pèse sur l'humanité tout entière. Par-dessus les divergences d'opinion, les différences de race, de coutume, d'éducation, ils cherchent à réaliser ce que tout homme honnête souhaite, la paix. Monsieur Frédéric Joliot-Curie, président du Congrès, prononce le discours d'ouverture.
Nous faisons appel à tous les honnêtes gens pour éviter ce fléau, la guerre. Ensemble, conscients de notre force, nous livrerons ce combat avec la certitude de la victoire.
Être unis, c'est le bout du monde, a écrit le poète Paul Éluard. Tous, ils parlent des langues différentes, et pourtant, tous, ils se comprennent.
Mais au même moment, Irving Brown a monté à Paris une contre-manifestation, la Journée internationale de résistance à la dictature et à la guerre, où des intellectuels de la gauche non communiste ont été invités. David Rousset, Simone de Beauvoir, André Breton ou l'Américain John Dos Passos. En une nuit, à la barbe du Congrès pour la paix, la capitale se couvre d'affiches annonçant à grands frais l'événement. Mais la ficelle est un peu grosse et les communistes dénoncent immédiatement une opération de la CIA. Irving Brown, qui ne s'avoue jamais vaincu, se lance alors dans un projet encore plus ambitieux. La Conférence pour la liberté de la culture, réunissant 19 nations, qui s'ouvre le 26 juin 1950 au Titania Palace de Berlin-Ouest. Le lieu est hautement symbolique. Berlin, isolé à l'est, qui quelques mois plus tôt, grâce à un pont aérien, a triomphé du blocus soviétique.
L'élite intellectuelle mondiale s'est réunie à Berlin lors du Congrès pour la liberté de la culture. L'écrivain italien réputé Ignazio Silone et Sidney Hook, professeur de philosophie à New York. Ce congrès international de trois jours s'est achevé par une grande manifestation publique sous la devise « Une culture libre dans un monde libre ». L'écrivain anglais Arthur Koestler a conclu par ces mots. Il est temps de dire adieu à la neutralité. Les intellectuels occidentaux ont quitté leur position défensive. Amis, la liberté passe à l'offensive.
Pendant trois jours, des intellectuels, parmi lesquels les Français David Rousset, André Gide, Raymond Aron, vont débattre de la meilleure manière d'affronter la propagande soviétique et d'offrir au monde une troisième voie entre capitalisme et communisme. Dans un contexte de haute tension, les Nord-Coréens viennent d'envahir la Corée du Sud. Le Congrès pour la liberté de la culture est un succès. La CIA félicite Irving Brown et considérera plus tard cette opération comme une des plus osées et des plus efficaces qu'elle a menée pendant la guerre froide. Il faudra attendre 1966 pour que le New York Times révèle que ce congrès était une pure création de la CIA, ce que les intellectuels invités ignoraient totalement. 1966 marque la fin du Congrès pour la liberté de la culture. Peu importe, Irving Brown, le suractif, est déjà sur d'autres opérations secrètes. Dans les années 50-60, le représentant en Europe du grand syndicat américain, l'AFL, voyage beaucoup aussi en Algérie et en Tunisie, alors colonie française, où il aide les travailleurs à s'organiser en syndicats. Brown se lie d'amitié notamment avec Ferhat Hached, syndicaliste et leader nationaliste tunisien et ami du futur président Bourguiba. Mais Hached meurt assassiné le 5 décembre 1952. Un assassinat en pleine rue attribué à une organisation d'extrême droite, la Main Rouge, derrière laquelle on suspectera bientôt les services secrets français. Irving Brown est présent aux funérailles de Hached. 3 ans plus tard, les Tunisiens dédieront un mausolée à sa mémoire.
À Tunis, le peuple tunisien a rendu hommage à la mémoire de Ferhat Hached. 100 000 personnes, peut-être, ont, avec Habib Bourguiba, accompagné la dépouille mortelle du leader syndicaliste tunisien jusqu'au mausolée, où il reposera désormais. Assassiné, on s'en souvient, en 1952, Ferhat Hached avait été alors inhumé dans l'île de Kerkena, son pays natal. Il repose aujourd'hui au cœur de la capitale de la Régence.
En Algérie également, les liens d'Irving Brown avec des combattants nationalistes le font mal voir des autorités françaises. Ce n'est un secret pour personne que les États-Unis poussent la France à la décolonisation et que la CIA soutient discrètement le FLN. En 1956, le gouverneur général René Lacoste, exaspéré, déclare Irving Brown persona non grata en Algérie. Pourtant, dans une interview accordée au Monde, le représentant syndical américain nie avoir jamais remis des sommes d'argent à des organisations musulmanes en vue de créer des syndicats, et il l'affirme.
Je n'ai jamais exercé d'activités pouvant nuire à la France et au peuple français pour lesquels j'éprouve un profond respect.
Il n'empêche, Irving Brown échappera de peu à 2 attentats, commis sans doute par des partisans de l'Algérie française. Encore un paradoxe américain. Tout en prêchant la décolonisation, le syndicaliste n'en poursuit pas moins son combat contre le communisme. Dans les années 80, l'élection en France de François Mitterrand et l'arrivée au gouvernement de ministres communistes représentent aux yeux d'Irving Brown un grand danger pour le monde libre.
Ladies and gentlemen, the President of the United States, Ronald Reagan.
En revanche, la présidence de Ronald Reagan de 1981 à 1989 est pour lui une belle victoire. Reagan, qui dans son fameux discours du 8 mars 1983, s'en prend à l'Empire du Mal, autrement dit l'Union soviétique.
Prions pour le salut de tous ceux qui vivent dans l'obscurité du totalitarisme. Prions pour qu'ils découvrent la joie de connaître Dieu. Mais en attendant ce jour, soyons conscients que lorsqu'ils défendent la suprématie de l'État, ils déclarent son omnipuissance sur l'individu et prévoient la domination de toute l'humanité. Ils sont dans le monde moderne le centre du mal.
Le président des États-Unis, qui se souviendra du vieux Cold Warrior. Le 17 octobre 1988, à Washington, Irving Brown se voit remettre des mains de Reagan lui-même la prestigieuse médaille de la liberté. Mais il y a un autre événement qu'Irving Brown a dû suivre avec attention, avec émotion même. En août 1980, dans les chantiers navals de Gdansk en Pologne, une chose totalement inédite dans un pays communiste, des ouvriers ont créé un syndicat libre, Solidarnosc, dont l'existence est scellée le 31 août par les accords de Gdansk.
Bonsoir, c'est terminé en Pologne. Un reportage de Gordon Yozlov.
Il a fallu 18 jours de bouleversements au gouvernement et d'incalculables pertes économiques pour que la grève des chantiers navals prenne fin sur une note pacifique et patriotique aujourd'hui. Le négociateur du gouvernement, Miroslav Jagelski, et le leader des grévistes, Lech Walesa, ont chanté l'hymne national. Tous les deux ont déclaré que l'accord signé, aujourd'hui, il était pour le bien du pays. Ils ont noté la satisfaction d'avoir mis fin au conflit sans usage de la force et par eux-mêmes. Une allusion au spectre d'une intervention soviétique qui planait sur la crise. Lech Walesa a signé avec un stylo géant portant une image du pape et a parlé d'un succès pour les deux parties. Jagelski a déclaré qu'il n'y avait ni perdants ni gagnants.
Les accords de Gdansk en Pologne qui marquent le début de l'écroulement du bloc communiste. Mais Irving Brown ne sera plus là pour assister à la chute du mur de Berlin et à la fin de l'Union soviétique. Il meurt à Paris le 14 juillet 1989, une belle date, et il est enterré comme il le souhaitait au cimetière du Montparnasse.
Espion, une histoire vraie de Stéphanie Duncan est un podcast original de France Inter.